Annabelle. Samedi 19 décembre 1992. Je m'appelle Annabelle de Galais. Je suis née en Italie à la fin des années 1940 dans un petit village du Piémont. À l'école, les enfants me surnommaient l'Autrichienne. Aujourd'hui, au lycée, pour les élèves et les professeurs, je suis Madame la Proviseur. Je m'appelle Annabelle de Galais, et avant la fin de la soirée, je vais devenir une meurtrière. Pourtant, rien en cette fin d'après-midi n'annonce l'issue tragique de ce premier jour de vacances scolaires. Mon mari, Richard, est parti avec deux de nos trois enfants, me laissant seul à la barre du lycée. Je suis sur le pont depuis les premières heures de la matinée, mais j'aime l'action et la prise de décision. Les intempéries ont désorganisé la vie locale et provoqué une incroyable confusion. À 18h, c'est le premier moment de la journée où je peux enfin souffler. Comme mon thermos est vide, je décide d'aller me chercher un thé au distributeur de la salle des profs. J'ai à peine le temps de me lever de ma chaise que la porte de mon bureau s'ouvre et qu'une jeune femme s'avance, sans y avoir été invitée. « Bonjour, Vinca. »«
Bonjour. »
Je regarde Vinca Rockwell avec un début d'appréhension. Malgré le froid, elle ne porte qu'une petite robe en tartan, un perfecto en cuir et des bottines à talons hauts. Je vois tout de suite qu'elle est complètement stone.
« Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»«
Me donner 75 000 francs de plus. »
Je connais bien Vinca et je l'apprécie, même si je sais bien que mon fils est amoureux d'elle et qu'il en souffre. C'est une de mes élèves du club théâtre, l'une des plus douées. À la fois cérébrale et sensuelle, avec un côté barré qui la rend attachante. Elle est cultivée, artiste, brillante. Elle m'a déjà fait écouter des chansons folk qu'elle compose dans son coin. Des refrains élégants à la beauté mystique, influencés par P.G. Harvey et Leonard Cohen.
75 000 francs.
Elle me tend une enveloppe Kraft et, sans attendre d'y être invitée, se laisse tomber dans le fauteuil en face de moi. J'ouvre la pochette et regarde les photos. Je suis surprise sans être surprise. Je ne suis pas atteinte, car toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie répondent à ce seul objectif. Ne jamais être vulnérable. Et c'est ma force.
Tu n'as pas l'air de te sentir bien, Vinca. Dis-je en lui rendant l'enveloppe.
C'est vous qui n'allez pas vous sentir bien. Lorsque je vais balancer aux parents d'élèves ces photos de votre porc de mari.
Je vois qu'elle grelotte. Elle a l'air tout à la fois fiévreuse, excitée et épuisée. Pourquoi me demandes-tu 75 000 de plus?
Richard t'a déjà donné de l'argent?
Il m'a donné 100 000 francs. Mais c'est pas assez.
Originaire de Sologne, la famille de Richard n'a jamais eu un sou en poche. Tout l'argent de notre ménage m'appartient. Je le tiens de mon père adoptif, Roberto Orsini, qu'il a gagné de ses mains en construisant des villas de maçons sur toute la côte méditerranéenne. Je n'ai pas cette somme sur moi, Vinca. J'essaie de gagner du temps, mais elle ne se laisse pas intimider.
Débrouillez-vous! Je veux l'argent avant la fin du week-end!
Je comprends qu'elle est à la fois à la dérive et incontrôlable. Sans doute sous l'emprise d'un mélange d'alcool et de médoc.
Tu n'auras rien du tout, dis-je brutalement. Je n'ai que du mépris pour les maîtres chanteurs.
Richard a été bien bête de te donner de l'argent.
Très bien. C'est vous qui l'aurez voulu,
menace-t-elle en se levant et en claquant la porte. Je reste un moment assise dans mon bureau. Je pense à mon fils qui est fou de cette fille et qui est en train de foutre en l'air sa scolarité à cause d'elle. Je pense à Richard, qui ne réfléchit qu'avec sa queue. Je pense à ma famille, qu'il faut que je protège. Et je pense à Vinca. Je sais exactement d'où lui vient cette sorte d'aura vénéneuse. De l'impossibilité que nous avions tous à l'imaginer plus tard. Comme si elle n'était qu'une étoile filante,
dont le destin était de ne jamais dépasser cet âge particulier des 20 ans. Après une longue réflexion, je sors dans la nuit et progresse péniblement dans la neige jusqu'au pavillon Nicolas de Staël. Il faut que j'essaie de la raisonner. Lorsqu'elle m'ouvre la porte de sa chambre, elle s'imagine que je viens pour lui donner de l'argent. « Écoute-moi, Vinka, tu ne vas pas bien. Je suis là pour t'aider. Explique-moi pourquoi tu fais ça. Pourquoi as-tu besoin d'argent ?» Là, elle devient comme folle et me menace. Je lui propose de faire venir un médecin ou de l'accompagner à l'hôpital. « Tu n'es pas dans ton état normal. On va trouver une solution à ton problème. » J'essaie de la calmer, d'y mettre toute ma force de conviction, mais je n'ai aucune prise sur elle. Vinka est comme possédée et capable de tout. Elle balance entre les larmes et un rire mauvais. Puis, soudain, elle sort un test de grossesse de sa poche. « C'est votre cher mari qui a fait ça !» Pour la première fois depuis longtemps, moi, la femme que rien ne peut atteindre, je suis déstabilisé. Une faille profonde et brutale s'ouvre en moi, sans que je sache comment l'arrêter. Une secousse sismique intime qui me terrifie. Je vois ma vie en train de prendre feu. Ma vie et celle de toute ma famille. Il est hors de question que je reste sans rien faire. Je ne peux accepter que notre existence se retrouve consumée et réduite en cendres par cette pyromane de 19 ans. Alors que Vinka continue à me narguer, j'aperçois la réplique d'une statue de Brancusi. Un cadeau que j'ai acheté au musée du Louvre pour mon fils et que Thomas s'est empressé de lui offrir. Un voile blanc passe devant mes yeux. Je me saisis de la statue et je fracasse le crâne de Vinka. Sous la violence du coup, elle s'effondre comme une poupée de chiffon. Le blackout a duré un long moment, pendant lequel le temps s'est arrêté. Plus rien n'existait. Ma conscience s'est figée, à l'image de la neige qui statufie le paysage au dehors. Lorsque j'ai commencé à reprendre mes esprits, j'ai constaté que Vinka était morte. La seule chose qui m'a paru évidente a été d'essayer de gagner du temps. J'ai traîné Vinka jusqu'à son lit et je l'ai couché sur le côté, dissimulant sa blessure. Puis j'ai tiré la couverture sur elle. J'ai traversé le campus, lugubre comme une lande fantôme, pour retrouver le cocon de mon bureau. Assise dans mon fauteuil, j'ai essayé d'appeler Francis à 3 reprises, mais il n'a pas répondu. Cette fois, tout était fini. J'ai fermé les yeux pour essayer de me concentrer malgré ma fébrilité. La vie m'a appris que beaucoup de problèmes peuvent être vaincus par la réflexion. La première idée qui m'a traversée, la plus évidente, fut qu'il suffisait de me débarrasser du corps de Vinka avant qu'on ne le trouve. C'était possible, mais difficile. J'ai élaboré quantité d'hypothèses et de scénarios, mais je revenais toujours au même point et à la même conclusion. La disparition de la jeune héritière Rockwell au sein du lycée allait provoquer une véritable onde de choc. Des moyens hors normes seraient déployés pour la retrouver. La police allait fouiller le lycée de fond en comble, effectuer toutes les analyses scientifiques, interroger les élèves, enquêter sur les fréquentations de Vinka. Il y avait peut-être des témoins de sa liaison avec Richard. Celui qui avait pris ses photos allait lui aussi finir par se manifester pour continuer son chantage ou aider la police. Il n'y avait pas d'échappatoire. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais cerné, obligé de capituler. À 10 heures du soir, je me décidai à appeler les gendarmes. J'étais sur le point de décrocher mon téléphone lorsque j'aperçus Francis qui longeait l'agora, accompagné d'Ahmed, pour se diriger vers mon bureau. Je sortis à sa rencontre. Lui aussi avait une tête que je ne lui avais jamais vue.
« Annabelle !»
cria-t-il, en comprenant tout de suite que quelque chose n'allait pas. « J'ai fait quelque chose d'horrible !» dis-je en me réfugiant dans ses bras. et je lui raconte ma terrible confrontation avec Vinca Rockwell.
« Courage !»
me murmure-t-il, quand je me tais enfin.
« Parce qu'il faut que je te dise quelque chose !»
Je croyais être au bord du précipice, mais pour la deuxième fois de cette journée, je suffoque et je perds tous mes moyens. Lorsqu'il me raconte le meurtre d'Alexis Clément, dans lequel sont impliqués Thomas et Maxime. Il me dit qu'avec Ahmed, il a profité des travaux dans le lycée pour emmurer le cadavre dans le gymnase. Il m'avoue qu'il pensait d'abord ne rien me dire pour me protéger. Il me serre dans ses bras, m'assure qu'il va trouver une solution, me rappelle toutes les épreuves que nous avons déjà traversées dans notre vie. C'est lui qui a l'idée le premier. Il me fait remarquer que, paradoxalement, deux disparitions sont moins inquiétantes qu'une seule. Que le meurtre de Vinca peut permettre d'effacer celui d'Alexis et inversement, si l'on réussit à lier leurs deux destins. Pendant deux longues heures, nous cherchons le bon scénario. Je l'informe de cette rumeur sur leur liaison. Je lui dis que mon fils m'a parlé de lettres qui lui ont brisé le cœur et accrédite cette thèse. Francis reprend espoir. Mais je ne l'accompagne pas dans son optimisme. Même si nous parvenons à faire disparaître les corps, l'enquête va se concentrer autour du lycée et la pression qui tombera sur nous sera intenable. Il en convient, soupèse le pour et le contre, envisage même de se dénoncer lui-même pour les meurtres. C'est la première fois dans l'histoire de nos deux vies que nous sommes sur le point de capituler. Pas par manque de volonté ou de courage, mais simplement parce qu'il y a des combats que l'on ne peut pas gagner. Tout à coup, dans le silence de la nuit, un martèlement nous fait sursauter. D'un même mouvement, nous nous retournons vers la fenêtre. Une fille, le visage hagard, est en train de tambouriner sur la vitre. Ce n'est pas le fantôme de Vinca Rockwell qui revient nous hanter. C'est la petite Fanny Brahimi, à qui j'ai donné l'autorisation de rester à l'internat pendant les vacances.
« Madame la proviseure !»
J'échange un regard inquiet avec Francis. Fanny habite dans le même pavillon que Vinca. Je suis certain de ce qu'elle va me dire. Elle a retrouvé le corps sans vie de son ami. « C'est fini, Francis, » dis-je. « On va être obligé d'appeler les flics. » Mais la porte de mon bureau s'ouvre et Fanny s'effondre en larmes dans mes bras. À ce moment, je ne sais pas encore que Dieu vient de m'envoyer la solution à tous nos problèmes. Le Dieu des Italiens. Celui que nous prions lorsque nous étions enfants dans la petite chapelle de Montaldiccio.
« J'ai tué Vinca !»
s'accuse-t-elle.
« J'ai tué Vinca !»